Alors, donc je m'appelle Daniel Brebeck et j'ai 55 ans. Vous avez tout mon palmarès sur vos feuilles là. C'est pas très important. Disons simplement que je suis un chrétien, pécheur et sauvé par grâce. Et il y a 8 ans de cela, Dieu m'a un peu forcé à rentrer dans sa volonté. Sur le moment, je ne l'ai pas très senti. En tout cas, il m'a poussé à rentrer dans un hôpital où on s'occupait de gens qui étaient accros à la drogue et à l'héroïne et à l'alcool. Et au tabac, au cannabis, à la coke. Et bien sûr, à d'autres problématiques qui sont les dépendances qu'on appelle comportementales, dont je dirai un mot. Et au début, je ne voulais pas du tout aller là-dedans. Moi, je voulais continuer ma vie d'avant, c'est-à-dire je travaillais comme médecin en Afrique, voilà, je faisais beaucoup d'aventures. Et là, maintenant, je rentre dans un hôpital où voilà, on fait 40 heures, et les horaires de bureau. Et je me suis rendu compte que finalement, c'était vraiment pour moi la place que Dieu m'avait préparée d'avance, où il y avait tellement de gens qui avaient tellement de besoins, tellement désespérés, tellement abandonnés au fond du trou. Et du coup, j'ai aussi beaucoup appris. Et ce que je vais vous raconter aujourd'hui n'est rien d'autre que ce que j'ai appris en partie sur le tas, comme on dit, hein, c'est-à-dire au contact de patients, de personnes, de vécus, d'histoires terribles parfois, d'histoires de mort et aussi d'histoires de vie. Et ensuite, la deuxième partie de mon propos, je vous parlerai de mon regard de chrétien sur cette maladie, comme le monde l'a décrit, la maladie addictive. Mais je vous proposerai aussi une thérapie spirituelle. Parce que je suis convaincu qu'il y a un espoir pour eux. Malheureusement, dans le métier que je fais, on m'a surtout dit n'en parle pas. C'est interdit de parler de Dieu dans un hôpital. Donc voilà. Alors merci d'être là et on va passer à la première photo. Alors la première photo, c'est les définitions. Bon, on va pas faire long là-dessus. Je dirais, retenez la définition du milieu, elle est géniale. Une obligation de satisfaire régulièrement un besoin nuisible. Facile, chaque mot compte. Obligation, vous avez perdu la liberté. De satisfaire, donc de rechercher une satisfaction, notion de plaisir, régulièrement, donc c'est pas tous les 6 mois, c'est quelque chose qui va revenir à intervalles réguliers, un besoin, donc quelque chose dont vous ne pouvez plus vous passer, et nuisible, quelque chose dont vous ne pouvez plus vous passer, mais qui n'est pas bon pour vous. On peut résumer cela. Alors bien sûr, on pourrait discuter de la différence entre la dépendance et l'addiction. L'addiction est plus un terme sociologique, la dépendance est plus un terme médical. Je dirais juste un mot. Il y a une différence avec certains produits entre ce qu'on appelle un usage nocif et la vraie dépendance. Peut-être qu'on aura le temps d'en discuter, peut-être qu'on en rediscutera peut-être en petit groupe ou à la sortie. C'est pas simple à déterminer. Qu'est-ce que je veux dire par là? L'usage nocif, ce sont des gens qui ont ils ont dépassé les bornes avec un produit. Mais ils vont peut-être pouvoir, dans un certain moment de leur vie, retrouver un certain contrôle de ce produit. Mais les dépendants à un produit ne vont jamais retrouver aucun contrôle sur ce produit. Leur seule solution sera de l'arrêter totalement et à vie. Ce n'est pas écrit sur le front des gens. Et la majorité des dépendants voudraient être des usages nocifs. Vous voyez ce que je veux dire? La majorité des dépendants voudraient dire: non, mais moi, docteur, ne vous inquiétez pas. Moi, je vais arrêter un peu. Vous voyez, je fais une petite pause. Et puis après, je reprendrai juste le week-end. Vous voyez? Voilà. Et là, ils replongent et ils tombent encore plus bas qu'avant. Voilà. C'était juste pour ça. On va passer à la suivante, si tu veux bien. Alors, ouais, on va faire le diagnostic. Excusez-moi, hein, vous avez invité un docteur, alors il va vous parler de choses médicales, hein. Il y a 3 mots pour déterminer. La notion de dépendance. Hein? Tolérance, sevrage, désir persistant. Qu'est-ce que c'est une tolérance? Je vous écoute. Qu'est-ce que ça veut dire la tolérance dans un produit ou dans une drogue? Comment est-ce que je peux définir cette notion? Mademoiselle. C'est bien, mais c'est encore plus que ça.
Notre corps l'accepte.
Oui, mais encore mieux que ça. On va augmenter les doses. Un mécanisme de tolérance, c'est ce que vous racontent les gendarmes. Ils vous arrêtent des types en voiture qui n'ont même pas fait d'accident. Ils leur prennent du sang et ils ont 3 grammes. Et ils roulent bien. Donc ils ont une tolérance. Ils sont capables de rouler avec 3 grammes d'alcool. Moi, si j'ai 3 grammes dans l'alcool, je n'arrive même pas à trouver la portière de la voiture. D'accord? Mais eux, avec 3 grammes, ils savent, ils sont capables de rouler sur une autoroute. On est d'accord ? Ça, c'est la tolérance. Et vous retrouverez la tolérance dans tous les produits et dans toutes les addictions comportementales. Vous avez des types qui peuvent jouer jusqu'à 12 heures, 13 heures, 16 heures par jour avec un Game of Thrones ou un World of Warcraft. Et c'est énorme pour eux, mais ça leur suffit pas. Ça ne leur suffit pas. Première chose, tolérance. Toute drogue va finalement, à un moment donné, vous donner un mécanisme où vous habituez à elle. Elle va vous donner beaucoup moins de plaisir et vous allez vous habituer à elle de façon négative. Ensuite, sevrage. Qu'est-ce que c'est le sevrage ? Mademoiselle. En général, on ne les habitue pas. Hein. On fait ça assez sec. Qu'est-ce qui se passe quand on fait un sevrage sec ? Hein ? Délirium tremens, c'est un signe du sevrage de l'alcool. Voilà. Le sevrage, ça veut dire simplement que quand on vous enlève un produit auquel votre cerveau était habitué, eh bien, votre cerveau ne va pas être content. Il y a du sevrage à la nicotine. Il n'y a pas si longtemps, un avion a dû se poser à Madère, un avion qui faisait Paris-Rio, et parce qu'il y avait un monsieur dans l'avion qui avait payé un billet en première classe, qui pensait qu'on pouvait fumer en première classe. Il a fait un tel beans, à peu près à la hauteur du Portugal, qu'on a décidé de poser l'avion à Madère pour le faire sortir avec des menottes, parce qu'il mettait en danger la vie de tout l'avion, parce qu'il était tellement excité. Donc il avait essayé de fumer dans les toilettes, les détecteurs avaient sonné, il avait menacé l'hôtesse de l'air, enfin voilà. Tout ça parce qu'il était en manque de nicotine. Donc on voit que le sevrage est quelque chose qui se passe quand vous avez pris l'habitude d'un produit ou d'un comportement et quand on vous l'arrête. Un jour, j'ai rencontré une dame dont le fils joue à un jeu en réseau sur Internet à peu près 13 heures, 14 heures par jour. Il a arrêté toutes ses études. Et alors, elle a essayé de faire un sevrage. Alors, elle, c'est pas compliqué. Elle coupe les plombs et elle arrête la boîte Wi-Fi. Écoutez, elle a dit, j'ai fait 2 fois. Et les 2 fois, on a dû appeler les pompiers. Et les 2 fois, il m'a menacé de mort. Ça, c'est le sevrage. D'accord ? Donc, un produit ou un comportement qui est addictogène va vous donner une tolérance, donc on va augmenter les doses et on va avoir un mécanisme très mauvais qui va se passer, qu'on va appeler le sevrage, parce que le cerveau ne va pas être content. Ensuite, le désir persistant, là, ça c'est facile, hein. C'est quoi le désir persistant ? Mademoiselle ? Il n'y a que les dames qui parlent ici, c'est grave. Messieurs, réveillez-vous. Hein. Voilà, désir persistant, on en a toujours envie, votre vie se construit sur ça. Ce matin ou hier, je ne sais plus, quelqu'un avait dit le cœur déborde, la bouche déborde selon le cœur est plein. Quand moi j'écoute mes patients héroïnomanes, ils me parlent de quoi ? De leur dealer, de la qualité du produit, des seringues qu'ils utilisent, de l'endroit où ils se le mettent, où ils s'injectent et comment ça se passe, et des copains qu'ils ont là. Leur vie tourne autour du produit, c'est leur truc. Tout le reste. Qu'il fasse beau, que les oiseaux chantent, que c'est bientôt le printemps, c'est plus très important pour eux. Le désir est persistant et ça devient, je l'écris en dessous, l'élément central de leur vie. Le gars dont je vous ai parlé qui joue 14 heures par jour à je sais plus quel jeu, un jeu en réseau où il a un avatar, où il se bagarre contre des types, il joue avec des Coréens, etc. Et, en fait, son élément central, c'est ça. Sa mère, elle dit, il mange une boîte de ravioli et une boîte de pépito par jour. C'est tout ce qu'il fait. Et il boit l'eau des toilettes. Et il vit à côté, il dort, il a une espèce de matelas, il dort par à-coups, il fait des nuits de 3 heures, puis il se réveille, il joue 3 heures, puis il se réveille, il se remet, il joue, voilà. Et il joue 13-14 heures par jour, il sort plus, il voit plus, il a arrêté toutes les études, etc. Ils sont pas tous comme ça. Mais ça montre bien que, encore une fois, on est dans un mécanisme où le désir devient persistant. Et alors, là où on pourrait s'intéresser, s'inquiéter, c'est qu'on voit des gens qui vont continuer un comportement extrêmement grave pour eux, alors qu'ils ont tous les éléments pour dire c'est mauvais. Moi, j'ai vu, par exemple, en réanimation, un monsieur qui avait une maladie, une artériopathie de Burger. C'est une maladie liée à la consommation de cigarettes, important. Donc, on lui avait fait d'abord un trou de trachéo parce qu'il ne pouvait plus. Et en plus, il avait les mains qui commençaient à tomber, les doigts tombaient, les orteils tombaient. Il était, les bras et les pieds, les jambes étaient blancs, manque d'oxygène. Et du coup, régulièrement, 5-6 fois par jour, ce monsieur, on l'emmenait en chaise roulante pour le sortir de l'hôpital. Et là, il bouchait sa trachéo, il se foutait une Marlboro et... Et alors, je lui disais, mais monsieur, il faut arrêter de fumer. C'est urgent, il faut arrêter de fumer. Mais docteur, c'est en Alsace. Mais docteur, c'est donc pas la peine. Vous savez donc très bien que ma maladie, elle n'a rien à voir avec la cigarette. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'obscurcissement. N'importe quelle personne normale dit, mais attendez, vous êtes en train de mourir. Ce truc est en train de vous faire pourrir vivant, excusez-moi le mot. Et le mec vous dit, calmement, mais il est sûr de lui. Hein. Mais docteur, vous savez bien, ça n'a rien à voir. D'accord, on va passer à la suivante, sinon on n'en sort plus. Allez, on va continuer. Voilà, celle-là, on l'avait déjà vue. On va passer à la suivante. Alors, c'est un défi et un coût pour la société. Regardez, il y a un sociologue qui s'est intéressé à la gravité des répercussions des drogues. Et donc, il a montré qu'une des drogues qui était la plus toxique pour l'individu, hein, ce qui tue le bonhomme le plus vite possible, c'est le crack. Le crack et l'héroïne est assez proche de lui. Et regardez, vas-y, appuie encore un petit coup. Et on voit que l'alcool rentre en quatrième. Et l'alcool, c'est une drogue légale. Hein. Elle agit au même circuit, hein, le circuit du plaisir. Hein. Mais l'alcool est quand même la quatrième en termes d'impact sur l'individu. Et après, quand on s'intéresse en termes d'impact sur les autres, sur l'entourage, le numéro un, c'est l'alcool. L'alcool est le premier produit destructeur de l'environnement. Si vous voulez catastropher votre vie familiale, votre relation avec famille, enfant, mère, papa, frère, sœur, ça c'est excellent. Ça, l'alcool, c'est un destructeur des liens sociaux extrêmement rapide. Voilà. Donc c'est juste pour vous dire que les drogues et les comportements addictogènes sont désocialisants par nature. Désocialisants, c'est-à-dire qu'ils vont vous sortir de la société et vont amener plus ou moins rapidement à votre rejet. C'est-à-dire que vous allez être éjecté, vous allez être mis de côté et vous allez vivre comme des rebuts de la société. On va continuer. Voilà le coût social des drogues en France. Alors, ce n'est pas des millions, hein, c'est des milliards d'euros. On estime que les drogues coûtent à la sécurité sociale française 250 milliards d'euros, à peu près équivalent pour le tabac et pour l'alcool, environ 120. Ça coûte très cher. Hein. Chaque année, le tabac tue 75 000 personnes avant l'heure. C'est plus que le Stade de France réuni. Et l'alcool, on pense 55 000 personnes tuées par l'alcool. Alors, et c'est là qu'on voit que les drogues illégales, finalement, elles sont pas énormes, c'est de l'ordre de 10 milliards d'euros. C'est beaucoup moins grave, en fait. Et on en parle beaucoup, les drogues illégales. Mais on voit que les drogues légales, que sont l'alcool et le tabac, sont extrêmement chères pour la société qui est la nôtre et qui vont coûter très, très cher. On estime que pour 100 euros de tabac vendu, ça coûte 25 ans plus tard 700 euros de sécurité sociale pour soigner le bonhomme. 100 euros. Alors, bien sûr, ça ne va pas dans la même caisse. Aujourd'hui, vous avez 100 euros, ça va dans le ministère du budget. Il compte ses sous en ce moment, le ministère du budget. Par contre, les 700 euros, c'est le type de la sécurité sociale. Alors, lui, on peut aller dans le déficit. Ben, ce n'est pas grave. Vous savez combien coûte le soin d'un seul cancer du poumon induit par la cigarette, un seul cancer du poumon, les 365 derniers jours de sa vie en moyenne? Combien coûte? Allez, je vous... des chiffres là. Combien ça coûte à la Sécu de soigner quelqu'un pendant les 365 derniers jours de sa vie pour quelqu'un qui a un cancer du poumon primitif induit par la cigarette? Allez, les enchères sont ouvertes.
150 000.
Hé, petit joueur.
300 000.
300 000, ah, petit joueur.
700 000.
Ah, petit joueur. On va autour du million d'euros. On va autour du million d'euros. Si vous comptez les ambulances, les radiothérapies haute énergie, les chimiothérapies, les kinésithérapies, l'oxygène à domicile, les chimios, les traitements, les médecins, tout ça, les hospitalisations en réa. Et tenez-vous bien, quand on compare des groupes de personnes qui ont un cancer primitif du poumon entre ceux qui acceptent le traitement et ceux qui n'acceptent pas le traitement, ceux qui acceptent le traitement gagnent environ 4 mois. Donc à peu près 4 fois 3, 120 jours de vie de plus, c'est tout. Pour 1 million d'euros, on leur rajoute 120 jours de vie. 120 jours de vie pour 1 million d'euros. Ça coûte cher de la journée. Hein. Ça coûte cher de la journée. Ils auraient pu aller à Europa Park hein, pour ça. Hein. Très bien. Alors, on pourrait réfléchir, mais ce qui est sûr, c'est que les drogues coûtent très cher à une société. Et plus le pourcentage de personnes usagées de drogues augmente, plus la société va avoir tendance à s'effondrer sur elle-même. Hein. On pense que Dans la course à la lune entre les Américains et les Russes, une des différences s'est faite sur l'alcoolisme. Les Russes sont à 12% d'alcoolisme naturel et les Américains sont à 7,5%. Et on pense que c'est la différence qui a joué sur la capacité de réaction et de produire et de se développer. Et alors après, je ne vous parle pas de l'impact du cannabis. On parlera un peu plus du cannabis, on parlera un peu plus du tabac, c'est quand même des sujets de fond pour nous aujourd'hui ici dans cette circonstance. Passons à la suivante. L'addiction, un vieux problème. Hein. Dans le passé, on disait que les gens qui étaient addicts, c'était des gens qui n'avaient pas de volonté. Ah oui, il a qu'à arrêter. C'est facile à dire. Hein. T'as qu'à arrêter. Prends pas de produits, c'est méchant. Tu prends des produits. Voyez. Donc, c'est méconnaître le mécanisme d'addiction de dire ça. C'est méconnaître. Là, je vous ai mis une petite dessin de Noé qui a expérimenté, peut-être pas l'addiction, mais en tout cas, il a expérimenté une ivresse profonde liée à l'alcool. Et puis, ça lui a pas fait du bien, hein, puisqu'on s'est moqué de lui. Il y a ses belles filles qui ont profité de tout ça. C'était glauque. Donc, on voit que dès le début, dans la parole de Dieu, on voit que l'abus d'alcool amène à des comportements répréhensibles duquel après, il y aura à chercher des réparations. Alors bon, le cannabis, le tabac, l'alcool, on va passer les détails. Là, il y a Freud avant. Freud qui était un grand consommateur de cocaïne, qui a d'ailleurs écrit un gros livre là-dessus en disant que c'était un truc super bien. Voilà. L'héroïne, par exemple, a été inventée par les Allemands, par la firme BASF, si ça vous dit quelque chose. Et au début, c'était un médicament pour le mal de tête et la toux. Je peux vous dire, ça marchait super bien. Ça marchait super bien. Seulement, ils se sont rendus compte que les gens en achetaient de plus en plus et de plus en plus. Et il se passait des choses bizarres. Donc, ils ont arrêté. Ça marchait trop bien. Très bien. Alors, quelques chiffres. À 17 ans, un jeune sur 5 consomme du cannabis plus de 10 fois par an. On en reviendra là-dessus. Chaque Français de plus de 15 ans consomme en moyenne 13 litres d'alcool pur, hein. Donc, ça veut dire environ 32 bouteilles de whisky par an. 32 bouteilles de whisky par an. Ça veut dire que si vous n'en buvez pas, ça veut dire que d'autres boivent deux fois plus. D'accord ? L'UNICEF, entre 15 et 18 ans, 41% ont déjà une expérience d'ivresse. Parce qu'il y a une différence entre boire un fond de champagne et boire 8 verres ou 9 verres de champagne. Il y a une grande différence. Et il y a une grande différence entre, à 11 ans, de se cacher dans une cave et de boire 7 ou 8 bières fortes pour rigoler, pour voir ce que ça va me faire, et de faire cette même expérience à 22 ans. Votre cerveau n'a pas la même maturité et la même capacité de contrôle. On sait aujourd'hui que plus les expériences d'ivresse, qu'elles soient, quel que soit le produit utilisé, sont faites jeunes, plus le risque de devenir dépendant après est élevé. Donc, si vous êtes papa, si vous êtes maman, regardez avec qui vos enfants sortent. Voilà. 74% des Français ont testé la cigarette. 68% de fumeurs fument plus de 10 cigarettes par jour. Ça montre quoi ? Ça montre que pratiquement tous ceux qui touchent au tabac deviennent accros. L'héroïne et la nicotine accrochent à peu près au même degré, sauf que le sevrage n'est pas le même et les répercussions sociétales n'est pas les mêmes. Mais le taux d'accroche est le même. Imaginons que je suis un type très mauvais. Je ne dois pas être un type très bon. Mais en tout cas, vraiment mauvais. Et que je prenne 100 jeunes de l'IBG là, qui n'ont jamais fumé. Ok ? Je les emmène dans un petit... Entrez, mesdemoiselles, n'ayez pas peur. Il y a des places en haut encore. Moi, je les rassure, elles avaient l'air de me voir. Je venais dire que j'étais très mauvais, alors elles hésitaient à rentrer. Voilà. Non, j'étais juste comme ça. Hein. Voilà. Et imaginez que je suis un type très mauvais et que je récupère 100 jeunes ici en disant qui n'a jamais fumé. Tiens, par exemple, va lever la main. Qui n'a jamais fumé une cigarette de sa vie ? Super ? Oh, ben ouais, je vous encourage. Bon, je suis fier de vous. Mais en tout cas, bon, imaginez que je prenne 100 jeunes et je leur fasse subir un traitement abominable, c'est-à-dire que je vous mette dans une espèce de maison fermée avec des surveillants, avec des baguettes. Et tous les matins, à 8 heures pétantes, vous devez fumer une cigarette. Si vous ne fumez pas, on vous tape sur les doigts. Ça fait très mal. Hein. Et le soir, avant le repas du soir, clac, cigarette, une cigarette, ok ? Et je vous fais fumer une cigarette matin et soir 30 jours, ok ? 30 jours, vous avez fumé 60 cigarettes, 3 paquets. Et le 31e jour, on change les règles. Il n'y a plus d'obligation, il n'y a plus de surveillant. Par contre, j'ai des paquets de cigarettes, j'ai des briquets, j'ai des allumettes. Et je dis à mes 100 jeunes, j'ai dit, hey les gars, les filles, aujourd'hui, c'est cool, vous n'êtes pas obligés. Mais qui veut, servez-vous. La question que je vous pose, sur les 100 jeunes que j'ai ainsi traités, combien vont prendre de la cigarette pour en emmener avec eux chez eux ? Un chiffre ? Allez-y. Combien ? Tous, presque tous. On pense 92. On pense 92. C'est difficile à mesurer parce que c'est une expérience abominable. On est d'accord. Mais on sait que l'héroïne et la nicotine ont à peu près le même taux d'accrochage, c'est-à-dire presque 90%. Et on drogue des femmes avec de l'héroïne, en particulier des femmes des pays de l'Est, qu'on fait venir en France, en Europe, on leur dit que vous allez serveuse dans un restaurant à 2000 euros et tout. On leur pique leurs papiers, on les drogue pendant un mois, et au bout d'un mois, 90% de ces femmes sont accros à l'héroïne. Et après, ben, ça donne une autre dépendance, et après, on leur dit si tu veux une nouvelle dose, ben, il va falloir que tu bosses. Vous savez très bien ce que c'est le boulot. Alors là où il y a un gros problème avec les macros, qui sont essentiellement d'ailleurs des Tchétchènes, c'est qu'ils se méfient des 10%. Ils se méfient des 10% qui ne sont pas accros au bout d'un mois. Parce que celles-là sont très dangereuses. Qu'est-ce qu'elles risquent de faire ? Elles risquent de se lever, de passer à la police, de trouver une association et de dire « bah, y a un mec qui s'appelait comme ça, il m'a mis dans une maison, il m'a drogué pendant un mois, etc. » C'est très dangereux. Donc ce sont des filles qui disparaissent. Et si vous demandez Philippe de Kourou, qui c'est qui a entendu parler de Philippe de Kourou, hein, il s'est beaucoup impliqué là-dedans. En Moldavie et en Roumanie du Nord, vous avez des murs entiers dans les stations de police là-bas avec des photos de filles qui n'ont jamais donné de nouvelles d'eux. C'est pas comme chez nous, une petite photo avec 8 ou 9 têtes. C'est des murs, des centaines de filles qui ont disparu totalement et dont on n'aura plus jamais de traces très probablement. Ok, passons à la suite. Sinon, on ne va pas y arriver. Les addictions, qui devrait venir? Les adolescents, je suis vachement content que vous soyez là. Parce que souvent, j'ai un public de troisième âge, vous voyez, alors je suis un peu découragé. Parce que pour eux, le train a passé. Donc, je suis très content que vous soyez là. On va pouvoir parler sérieusement de ce sujet. Allez, photo suivante. Ouais, alors le piège se referme très vite. C'est l'histoire d'un monsieur qui fait du canoë et qui se met dans la bouche d'un rorqual qui mange des harengs. Vous voyez les harengs, d'ailleurs ils sautent un peu partout, les harengs là, vous voyez. Et alors là, il est là et il n'a rien compris, monsieur. Vous voyez, il fait du canoë, c'est une super journée peinard, et il croit que ça va être une journée peinard, et tout à coup, il y a un espèce de truc qui vient et qui le... Eh bien, c'est exactement ça l'addiction. Vous avez des tas de gens qui vous disent, mais t'inquiétez pas docteur, je prends ce machin, mais je gère, j'arrête quand je veux. Il n'y a pas de problème. Le problème, c'est vous docteur. Vous voyez ce que je veux dire? Et tant qu'ils sont là-dedans, c'est qu'ils n'ont pas encore senti la bouche du truc qui s'ouvre. Le problème, c'est qu'en général, quand elle s'est ouverte, c'est trop tard. Ils sont... L'addiction s'est fermée. Et on en parlera un petit peu de ce problème. On va passer à la suivante. Alors, juste pour vous dire qu'on n'est pas totalement égaux par rapport au risque d'addiction. Et il y a certaines populations qui le sont plus. Je vous ai dit qu'en Europe, on est à peu près à 8% de dépendance à l'alcool. États-Unis, à peu près comme ça aussi. Les Russes sont à 12%. Et alors... Par exemple, aux États-Unis, à l'époque de la conquête des États-Unis, on s'est battu contre les Indiens qui se sont révélés être des très bons guerriers, qui savaient utiliser les armes qu'on leur avait pas données, d'ailleurs les chevaux, les armes et tout. Et c'était très compliqué de se battre contre eux, c'était très courageux. Puis un jour, on a abandonné devant une de ces zones où il y avait les Indiens, on a abandonné une charrette avec du bourbon four roses, vous savez, le bourbon quatre roses. Et là, les premiers colons américains ont fait une découverte exceptionnelle, c'est quand ils sont revenus 4 mois plus tard, 60% de la tribu était devenue alcoolique. Et alors qu'avant, ils auraient été prêts à se laisser tuer pour protéger leur sachem, ils étaient prêts là à vendre la parure de sachem de leur chef pour une nouvelle bouteille. Et là, les Américains ont compris un truc, c'était beaucoup plus facile d'éliminer les Indiens, les Native Americans, comme ils appellent, avec de l'alcool qu'avec des Winchester. Grande découverte. Jusqu'aujourd'hui, c'est vrai. Dans les réserves américaines, c'est la dépendance à l'alcool dans ces zones atteint les 40-45%. Pour des raisons génétiques, très probablement, on ne sait pas exactement. Alors, ceux qui tiennent le pompon, c'est les populations qui disparaissent, c'est les pygmées, les hottentots. Hein. Les pygmées, les hottentots, on est en train de les filmer parce que ils sont tellement alcoolisés, on pense que leur taux d'alcoolisation chez eux est de l'ordre de 80%, que les femmes n'ovulent plus. Les hommes, d'ailleurs, ils pensent même plus à faire des enfants. Et du coup, on pense que la population pygmée hottentot va disparaître de la surface du globe dans 20 ans. Donc, on les enregistre, on les filme, on les photographie parce que dans 20-30 ans, ce sera dans les musées qu'on pourra parler d'eux. Et c'est l'alcool et le tabac qui les tuent, alors qu'ils n'avaient eu aucun contact avant. Passons à la suivante, parce que les Esquimaux sont bien aussi là-dessus. Alors maintenant, je vais quand même vous parler rapidement un peu du circuit du plaisir, parce que si vous avez compris le circuit du plaisir, vous pouvez comprendre pourquoi la phrase du style « Ouais, mais t'as qu'à arrêter », ça c'est un truc à oublier. Ok ? Je regarde l'heure, et c'est encore un peu de temps. Imaginez que vous soyez levé tôt le matin, vous êtes allé au boulot et vous n'avez pas eu le temps de prendre votre petit-déj. Entre midi et deux, c'était vraiment blindé. Vous avez juste eu le temps de boire un café avec une madeleine. Et puis, vous sortez à 18h, vous rentrez chez vous, mettons que vous êtes un monsieur, et vous rentrez à la maison, vous avez très... Enfin, ouais, voilà. Vous rentrez à la maison et là... Votre femme, elle a bossé aussi. Elle vous accueille. Elle dit, écoute, chérie, je suis désolé. Moi aussi, j'ai une journée. Voilà. Donc, j'ai pas eu le temps de faire une grosse popote, mais j'ai juste fait une omelette et des patates bouillies. Bon, c'est pas la grande cuisine, mais voilà. Vous allez vous asseoir. Vous allez manger une omelette et des patates bouillies et vous allez probablement la trouver très bonne. Ouais. Parce que votre cerveau va vous donner du plaisir. Parce que votre cerveau, il mesure en taux continu le taux de sucre dans votre sang, le cholestérol réel, le taux de pression dans votre estomac, la quantité de remplissage du première partie de votre duodénum. Il sait tout ça. Il faut imaginer votre cerveau comme une espèce de cockpit d'avion avec des tas de lumières que vous ne voyez pas, mais lui, il le voit. Et il sait exactement où ça en est. Et le soir, quand vous rentrez du boulot, il sait que maintenant est le moment venu de remplir votre réservoir. Il le sait. Donc, il va vous donner un plaisir parce que c'est important que vous le fassiez. Donc, vous allez manger correctement et vous allez probablement dire à votre épouse ou à votre mari, si c'est lui qui a préparé, « Ouais, chérie, vraiment, c'est super. Hein. C'était juste une omelette, mais alors qu'est-ce qu'elle était bonne ? Puis les pommes de terre, tout est bon. » Ok ? Vous avez bien mangé et là, crac, vous allumez la télé, vous voulez voir le journal de 20h et au moment même où le machin s'allume, le téléphone sonne. Et là, le téléphone, c'est la tante Agathe. Et qui dit, comment, Daniel, t'as oublié ? Attends, ouais, tante, salut, ouais, quoi, non, oublié ? Mais c'est mon anniversaire ce soir ! Je dis, ah bon, l'anniversaire, laquelle, le qui, toi, moi, oui. Mais bien sûr, toute la famille est là, on t'attend, il y a du rôti de veau sur l'œuf, il y a des caillons sarcophages, des huîtres, du foie gras, Oh là, tante, alors j'ai totalement... Et voilà, alors ma tante anniversaire, donc du coup, on s'habille, on met les pompes et tout, on se précipite, on fonce chez tante Agathe, on arrive à 8h30, c'est un peu en retard, un peu ébouriffé, et là, vous avez tante Agathe qui dit, mais alors Daniel, mange, c'est bon. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez mettre un premier petit four à la bouche, un deuxième petit four, et ils sont super bons, hein, les petits fours. Hein. Et puis alors, vous avez des croustades, des machins, des trucs, c'est pas des pommes de terre bouillies, hein, et des omelettes. Mais là... Plus la tante Agathe va insister, vous allez en manger un peu. Mais pourquoi vous n'allez pas pouvoir en manger plus ? Je ne vous entends pas. Plus que ça. Si on insiste, vous avez plus faim. Vous arrivez, vous avez déjà plus faim. Votre estomac est déjà bien rempli, votre cerveau sait qu'il y a déjà un signal. Pip, 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 ne rangez plus, n'en rajoute plus. Mais vous allez en rajouter pour faire plaisir à tante Agathe, parce qu'elle est plutôt un peu chiante, vous voyez. Mais, non, mais pour des raisons sociétales, on va aller au-delà du circuit du plaisir. Et le circuit du plaisir vous dit, il ne faut plus en rajouter, la machine est pleine. On va même vous donner du dégoût pour le faire. Mais vous allez quand même en rajouter un peu, parce que, bah ouais, parce que sinon, tante Agathe, pas content, vous voyez. Donc comprenez que nous avons tous un circuit du plaisir et c'est une bonne chose. Dieu nous a fabriqué avec un super système. Pareil pour l'eau. Vous avez bossé, vous avez fait les foins, il fait chaud, vous rentrez, la fermière vous tend une cruche d'eau. Ah, la gorgée, ouah, la deuxième elle est bien, la troisième ça va, la quatrième beauf, la cinquième bon et la sixième on pose le verre. Et vous savez quoi ? Le cerveau mesure, il y a un volorécepteur dans votre gorge et chaque gorgée est mesurée et il sait combien de gorgées vous avez bu. Et on peut mourir en buvant trop d'eau. Hein, il y a eu plusieurs femmes qui sont mortes avec la pub contre Exéville, buvez éliminé. Il y en a une qui a bu 7-8 bouteilles, je crois. Elle est morte, coma hyponatrémique. Donc, le cerveau sait qu'on peut mourir avec de l'eau. Donc, il vous dit, tu bois, commence par me boire 6-7 gorgées. Ensuite, on va mesurer la concentration sanguine. S'il y a encore besoin, je te donnerai un peu de plaisir pour en reboire. Faites l'expérience. Au bout de 5-10 minutes, le cerveau va refaire une petite mesure et il va te donner l'autorisation de boire encore 7-8 gorgées. Et s'il a besoin, 7-8 minutes plus tard, il va encore une fois te redonner un petit signal. Mais il va contrôler ça pour pas qu'il y en ait trop. Et inversement, si maintenant je redeviens le mauvais méchant monsieur que j'étais avant, hein, et je venais, je me mettais un flingue sur la tête et je dis, bon, t'en as déjà bu 8 des gorgées, maintenant, allez, encore une, sinon je tire. 9 gorgées, 10 gorgées, 11 gorgées, 12 gorgées. Qu'est-ce qui va se passer à la 12e ? Des nausées. Ça va être... C'est la même eau, hein, c'est exactement la même eau. Mais la 12e gorgée va être abominable. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands utilisaient le supplice de l'eau pour faire craquer les résistants. C'est, au-delà de la 13e, 14e gorgée, c'est tellement insoutenable, c'est tellement désagréable. Et c'est pourtant que de l'eau. Donc on voit que nous avons un circuit qui nous donne du positif pour les choses dont nous avons naturellement besoin. Et un circuit qui va nous arrêter le plaisir, voire même nous donner du déplaisir pour des choses qui nous seraient naturellement négatives. Et maintenant, vous avez compris, les drogues et les comportements addictifs interfèrent avec ce circuit. Un circuit normal qui est fait pour nous, qui est fait pour nous piloter, pour nous donner de faire au bon moment les bonnes choses et d'éviter de faire des mauvaises choses au mauvais moment. Et toutes les drogues et tous les comportements addictifs interfèrent avec ce système, plus ou moins efficacement. Si elles n'interféraient pas avec ce système, elles ne seraient pas des drogues ou elles ne seraient pas des comportements addictogènes et on ne parlerait pas de ça aujourd'hui. Et c'est là qu'on voit que les drogues sont des grandes menteuses, puisqu'elles se transforment, elles tournent un système naturel où elles ne devraient pas rentrer, mais chimiquement elles interviennent là-dedans. Alors on va passer à la suivante. Ouais, voilà. Alors qu'est-ce que c'est un drogué ? Qu'est-ce que c'est un toxicomane ? Le drogué, c'est vous et moi. Voyez l'échelle du plaisir, 6 c'est le sixième ciel. Hein. Là il est à 0, on va dire normal. Donc il prend un produit, waouh, il arrive au cinquième ciel, hein, dans mon histoire, et puis le produit commence à s'éliminer de lui, et il diminue, et il revient à zéro. Ça, c'est le mec qui dit, wouh, ah, c'était bien ce truc. Ouah, tu devrais voir, ça, t'es un truc. J'en ai encore un peu, je t'en fourgue. C'était trop bien. Ça, c'est le drogué, ok? Maintenant, on va passer le toxicomane. Alors lui, c'est très différent. Drogué, c'est le débutant. C'est ce qu'ils voudraient tous rester, mais on ne le reste pas longtemps. Et on devient rapidement un toxicomane. Le cerveau s'habitue, il y a un mécanisme de tolérance. Regardez, il est à zéro, toujours comme l'autre. Sauf que lui, il ne se passe rien, il ne prend aucun produit. Sauf qu'au bout d'un moment, le produit s'évacue de lui et il rentre dans le sevrage. Et là, il ne va plus dans le positif, il est dans le septième enfer, le gars. Et au septième enfer, il est prêt à tout, mais à peu près à tout. Moi, je travaille dans un hôpital psychiatrique, j'ai vu un type à minuit s'échapper un jour de pluie en slip et en chaussettes, en descendant d'une gouttière pour aller sur une autoroute pour faire 40 km et trouver du produit à Strasbourg. Il faut le faire. Au septième enfer, on est à peu près prêt à faire n'importe quoi. Il faut bien comprendre que quand on descend dans cette phase du manque, c'est dans le cerveau, imaginez une espèce de hurlement qui dit « Va prendre le produit, faut le prendre maintenant !» Et plus t'attends, plus ça crie fort. Donc c'est plus une question de volonté. C'est plus une question de volonté. La volonté de l'homme de dire « Je le ferai plus, je le ferai plus, je le ferai plus, j'ai promis à maman que je le ferai plus. » C'est fini ça. C'est un orage dans le cerveau. Il n'y a pas de possibilité de contrôle humaine à ce moment-là. Et puis ensuite, il prend le produit, parce qu'il sait très bien, son cerveau lui dit de le prendre. Donc il le prend et vous voyez, il remonte. Mais alors il ne remonte plus au septième ciel. Hein. Il fait un plus un, un petit plus un. C'est la tolérance. Et tous les héroïnomanes, même les drogués de la nicotine, vous disent, vous savez, moi je fume. Mais j'ai plus beaucoup de plaisir, hein, ou presque pas du tout de plaisir. Le plaisir, il est presque fini. Ce qu'ils ont, c'est du soulagement. Ils n'ont plus de plaisir, ils ont du soulagement. Ils arrêtent leur déplaisir, en fait. Vous me suivez ? Plaisir, fini, c'était au début, ça. Après, ils gèrent juste le manque. Passer à la pause suivante. Voilà, et voilà. Alors ça, c'est une belle photo, hein, un peu neuro, machin. Voilà. C'est juste, hein, oubliez tout, mais retenez que tous les produits, nicotine, amphétamine, cocaïne, benzo, malheureusement prescrit par beaucoup de confrères, barbiturique, alcool, morphine, alcool, en fait, tous les produits, cannabis, il agit un peu plus haut, mais toujours sur la même boucle, tous les produits drogants agissent là-dessus. C'est le carrefour du circuit du plaisir. Tous les produits agissent par différents moyens pour faire qu'au final, dans le neurone bleu, le dernier, le cible là, que ça pulse fort de la dopamine là-dedans. S'il n'y a pas un peu une augmentation de dopamine dans le bleu là, alors votre produit, ce n'est pas du bon, hein. Le revendeur qui vous l'a vendu, vous le retournerez plus chez lui. Vous direz, c'est ton truc, c'est pas du bon. Voilà. Mais si ça pulse là-dedans, vous êtes un bon vendeur et on reviendra chez vous pour acheter du produit. On va passer à la suivante. Voilà. L'expérience de Schultz, alors c'est une longue histoire, c'est assez spécial. C'était quelqu'un qui mesurait le taux de dopamine dans le cerveau. J'aimerais beaucoup vous en parler, c'est complexe, mais on va passer à la suivante. Voilà. L'addiction à la dépression, juste pour dire que c'est l'histoire de la poule et de l'œuf. Il y a beaucoup de gens qui disent « je suis dépressif et je me suis mis à boire ». Et ce n'est pas parfois vrai. Mais il faut aussi reconnaître que boire, ça vous induit dans de telles catastrophes qu'on devient dépressif par rapport à ça. Donc, c'est difficile de dire. Voilà. Mais ce qui est vrai, c'est que quand on est très mal, on a envie de prendre le produit. Parce qu'au moins, pendant la phase où je prends le produit, j'oublie un petit peu tous les soucis que le produit m'a en fait lui-même donné. Vous me suivez ? On va passer à la suivante. Drogue égale prison. Voilà. Hein? Je ne suis pas bien, je prends le produit, je me sens mieux. Ensuite, je me sens coupable, c'est nul, je suis un salaud. Voilà. Ensuite, je voudrais m'en sortir, mais je me rends compte que je n'y arrive pas. Je replonge, hop, je reprends le produit, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et au bout d'un moment, il y en a qui, je le vois chez moi, dans l'hôpital où je travaille, une partie de mes patients finissent par se suicider. Parce que quoi ? Parce qu'ils font une cure, deux cures, trois cures. Puis au bout d'un moment, ils ne sont pas plus bêtes que les autres. Ils se disent, je m'en sortirai jamais. Alors autant finir la boucle un peu plus vite que prévu. Alors parfois, ils viennent me voir et ils me disent « J'ai essayé telle méthode, ça n'a pas trop marché. Docteur, qu'est-ce que vous en pensez ?» Alors j'essaie de raconter pas trop de bêtises. Hein. Voilà. On va passer à la suivante. Voilà. Alors maintenant, parlons un petit peu des produits. Je vous ai parlé de l'alcool. Hein. N'oubliez pas une chose, c'est que les gens qui vendent de l'alcool, c'est des dealers. Sauf que c'est des dealers autorisés. Et ce sont des gens qui gagnent beaucoup d'argent. Et ils savent une chose, c'est que il faut cibler un public jeune. Vous. Et c'est vous qu'ils veulent avoir. Parce que les gens à 60 ans, ou ils sont déjà dépendants et ils en consomment beaucoup, en tout cas, leur consommation ne va plus beaucoup évoluer. Mais là où on va impacter quelque chose sur la consommation, c'est vous. C'est à votre âge. voyez ce que je veux dire? Donc, la publicité à l'époque des 60 ans, soit ils consomment beaucoup, soit ils ne consomment pas du tout, et vous ne changerez plus grand-chose à ce moment-là. Par contre, si j'arrive à formater des jeunes d'une génération entière à boire beaucoup d'alcool, souvent et de préférence de la marque que je vends, je suis millionnaire, voire milliardaire. Et je peux vous dire qu'ils dépensent des sommes énormes, hein, puisque c'est de l'ordre de plusieurs millions d'euros qui sont dépensés en France, rien que pour la publicité sur Internet à destination des jeunes par rapport à l'alcool. On leur dit quoi ? Si tu fais la fête, il faut de l'alcool. Une fête sans alcool, ça n'existe pas. Et moi, je crois qu'on peut faire une super fête sans alcool. Absolument génial. On va passer à la suivante. Le tabac, j'en ai déjà beaucoup parlé, hein. Très franchement, c'est probablement la drogue qui accroche le plus et qui donne aujourd'hui le coût sociétal le plus élevé en France. Mais c'est aussi, bizarrement, la drogue qui est encore socialement très acceptée. Parce que pourquoi ? Parce qu'au début, pendant 25 ans, vous pouvez mettre à fumer, vous pouvez continuer à travailler, vous intégrer socialement, vous pouvez... voilà. Les répercussions ne vont arriver que très tard. Mais quand elles sont là, c'est catastrophique. Voilà. Si vous êtes accro au tabac, venez en parler. Venez m'en parler. Prenez rendez-vous. Je suis convaincu que Christ a un plan de libération, de sortir de toutes les drogues, y compris du tabac. C'est pas parce que sociétalement, on pense que c'est pas si grave. C'est grave. C'est grave parce que ça va vous amputer un morceau de votre vie, sans compter à l'argent que ça va vous coûter. Alors, on va passer à la suivante. Je vais vous parler du cannabis. Là, je vais prendre un peu plus de temps parce que le cannabis est un vrai sujet. Pourquoi ? Parce que le cannabis est un produit qui est largement consommé en France et en Suisse aussi. En Suisse, d'ailleurs, il est partiellement toléré. Et les gens me disent oui, voilà, le cannabis c'est pas dangereux, et vous trouverez des gens qui vous diront le cannabis, j'en ai pris et finalement il m'est rien arrivé. Parce que le cannabis, il se situe à mi-chemin entre l'addictivité d'une nicotine qui est très forte et l'alcool qui finalement est assez faible, puisque vous n'avez que 8% de dépendants. Par contre, ceux qui sont dépendants à l'alcool, ils vont payer un prix extrêmement élevé. Mais 92% de gens peuvent consommer un peu d'alcool sans devenir accro. Alors le cannabis, le taux d'accroche du cannabis est estimé, c'est difficile à mesurer, à 40%. Ça veut dire que vous avez 60% de gens qui vont vous dire « Oh ben moi, j'ai consommé un peu de cannabis quand j'étais au collège, au lycée, et puis j'ai arrêté, et puis vous voyez, ça m'a pas fait grand-chose. » Oui, c'est vrai. Vous en trouvez des gens comme ça. Et c'est malheureux parce qu'ils vont faire la pub pour les autres. Mais les 40% qui rentrent dedans, je peux vous dire, eux, ils payent cher. Si vous aviez des enfants et que votre fille vienne vous voir, elle a 14 ans et elle monte sur une moto avec un gars qui est complètement ch'tarbé, elle me dit « Oui, mais papa, t'inquiète pas, le gars, il roule pas très bien, mais j'ai 60% de chance de pas faire d'accident. » Vous lui diriez « Vas-y ma fille, monte, c'est cool. » Non, c'est terrible. Et le cannabis, je vais vous dire, il a un coût énorme pour vous. D'abord, consommer du cannabis, ça coûte cher. Ensuite, il y a un vrai problème, c'est qu'il impacte deux choses. Il impacte votre motivation. On n'a pas très envie de faire des choses quand on fume du cannabis. Et en plus, il a une demi-vie longue, c'est-à-dire qu'il va rester en vous plus de 10 à 12 jours. Donc l'effet est long. Même si on a l'impression que l'effet était court, sur quelques heures, en réalité, l'effet sur votre psychique va être long. Pendant cette période, vous allez être peu motivé. Peu motivé pour faire vos devoirs, peu motivé pour aller au travail. Et pire que ça, le cannabis se fixe sur le disque dur de votre mémoire vive, ce qu'on appelle la RAM en matière informatique. Et ça, c'est très important, parce que vous avez besoin de votre mémoire vive pour mémoriser les informations au boulot, à l'école. Alors, s'il y a un produit impactant sur l'intégration scolaire, c'est le cannabis. Si vous voulez rater vos études, un très bon conseil, prenez ce truc-là. Ça va vous décourager de prendre... Ça va vous décourager de prendre, de réviser vos cours. Et en plus de ça, ça va vous empêcher de retenir ce que vous auriez pu entendre quand vous étiez en cours. Et alors le coût du cannabis, je vois les gens qui disent « Ouais, mais je fume un joint, tant, et tout. » Alors je leur dis « Combien ça vous a coûté ?» Alors ils font le calcul sur un an, ça leur a coûté peut-être, je sais pas, 200 euros. Je leur dis « Mais attendez, combien ça va vous coûter en réalité ?» Parce que si le cannabis que vous consommez vous fait échouer au niveau scolaire, ne serait-ce qu'un petit peu diminué, au lieu de faire bac, vous ferez CAP. Au lieu de faire CAP, vous sortirez sans diplôme. Au lieu de faire master, vous ferez bac. Et alors, j'ai dit, calculons la différentielle de salaire entre quelqu'un qui arrive avec un SMIC à la française à 1300 euros et quelqu'un qui commence à 2000 euros salaire de base, bac plus 4. Et si vous regardez la courbe jusqu'à 60 ans et que vous faites la différentielle, ça se situe de l'ordre du million d'euros. De millions d'euros pour quelques joints. Le coût financier est énorme, même si vous n'êtes pas devenu dépendant. Si vous voulez rater vos études, consommez ce produit. Alors bien sûr, encore une fois, c'est toujours pareil en médecine, et il y en a qui sont très impactés, et d'autres qui vous disent « ça ne m'a pas empêché de devenir ministre ». Il y a même Madame Duflot, qui a mieux fait de se mordre sur la langue ce jour-là, qui dit « ouais, je suis devenu ministre et j'ai fumé quelques joints étant jeune ». Oui, c'est vrai, bien sûr. Il y a des exceptions à tout. Il y a toujours des exceptions à tout. Le cannabis est un mauvais produit, avec des phénomènes de tolérance et des phénomènes d'induction de maladies psychiatriques. On n'a juste pas le temps d'en parler. Gravissime, gravissime. J'en vois régulièrement. Et malheureusement, alors, ce sont des pathologies à vie. C'est pas fréquent, mais quand ça arrive, c'est vraiment le très mauvais loto. On va passer à la suivante. Voilà, je ne parle pas de l'héroïne et de l'opium. C'est une longue histoire. Les trafics qui se situent autour, on va passer. Les psychostimulants, les amphétamines, essentiellement la cocaïne. Voilà aussi, ça, c'est... On a l'impression qu'on devient Goldorak. Hein. Il ne faut pas se leurrer. Hein. Dans les drogues, il y a du plaisir. Hein. En tout cas, au début, ils croient que, voilà, ils sont super bons, super forts, qu'ils peuvent tout faire. Et le problème, c'est que quand le produit s'arrête, ils payent avec addition. Hein. Ils descendent au troisième niveau. Et là, ils se sentent absolument nuls. Des suicides dans le manque assez fréquents. Ça donne peu de dépendance vraie, mais ça donne des mécanismes de... C'est comme si vous faisiez monter votre moteur psychique à 7000 tours minute, le moteur à fond, et tout à coup, vous auriez un moteur qui ferait le moteur de Solex qui fait pet. Voilà. Et alors ça, c'est très dur de faire passer de l'un à l'autre, et beaucoup de catastrophes comme ça. Voilà, le produit vous promet le paradis pour vous donner finalement l'enfer. On va passer à la suivante. Les produits vous font toujours payer ce qu'ils vous apportent avec intérêt. Ouais, ça, j'ai vraiment envie de le dire en parlant de produits. Le plaisir, parce qu'il donne du plaisir. Ne dites pas aux ceux que vous allez rencontrer que prendre un produit ou un comportement ne donne pas du plaisir au début. Si, il en donne, il faut le dire. Sauf que le coût réel que vous allez payer sera infiniment supérieur à ce que vous en aurez ressorti. Ça, c'est terrible, les souffrances qui sont induites là derrière. Mais c'est un mensonge et on va en parler. Voilà. Alors parlons un peu des produits. Maintenant, on a parlé des produits. Maintenant, parlons un tout petit peu des comportements risques. Des comportements qui posent problème, les jeux pathologiques. Aujourd'hui, on a beaucoup de problèmes avec le jeu de poker en ligne. On a beaucoup de problèmes avec les jeux en réseau. Je vous en ai déjà parlé. On va passer à la suivante. Addiction au sexe. Et je vais en parler un peu plus avec le problème de la pornographie. Aujourd'hui, avec un simple smartphone, vous faites 3 clics sur Google, vous pouvez trouver des trucs absolument glauques, bizarroïdes, dont vous n'avez même jamais idée. Les gamins de 11 ans s'échangent ça dans les collèges pour te montrer le dernier machin qu'ils ont vu. Des choses terribles. Vous n'avez pas idée de l'impact que ça a sur le cerveau. Ne croyez pas que parce que personne ne l'a vu, si ce n'est Google, qui garde une mémoire de tout. Hein? Ne croyez pas que parce que personne ne l'a vu, mais vous l'avez vu. Et je dirais même plus, celui qui donne le plaisir de ces choses-là, c'est Satan, lui, il a pris un petit contrôle de vous. Parce que chaque fois que Satan donne un plaisir à l'homme, il lui met une petite puce, un petit cookies dans le dos en disant, attends, mais toi et moi, on a fait un deal. Je ne te souviens plus. Attends, ne me regarde pas comme ça, tu me connais. C'est moi qui t'ai fait un petit plaisir, tu ne te souviens plus. Donc, en tout cas, on est en affaire, toi et moi. Tu dis que tu es avec Jésus, ok, mais d'accord, mais attends, moi et moi, on a un deal. Chaque fois que vous appuyez sur ce bouton-là, et ne rêvons pas, ils ont fait des statistiques il y a 3 ans, en 2014, et sur les jeunes qui ont répondu, 90% des jeunes garçons disaient qu'ils avaient un problème avec la pornographie en ligne. C'est tellement simple, c'est tellement facile. Tellement facile. Donc, ne nous voilons pas la face. Ne disons pas, ah oui, c'est horrible. Ah, c'est sale, méchant, pornographe que je ne saurais voir. Non, c'est notre problème à nous. Et le Seigneur dit, vous devez chercher la pureté. Or, le Seigneur a un programme pour ça. Le Seigneur veut nous en sortir. Et je vais vous en parler avec le temps qui me reste. Alors ouais, les achats compulsifs, ça c'est une maladie de femme, hein, mais les messieurs, vous pouvez quand même l'écouter. Hein, mais ça existe aussi un peu chez les messieurs. Mais les dames sont plus exposées à ça. On appelle ça l'oignomanie. Ouais, mais c'est un peu, ça n'a rien à voir avec les oignons. Et en fait, vérifiez sur Internet. Ce sont des dames qui parfois se ruinent en achetant des fringues et surtout des chaussures et des trucs qu'elles ne mettent jamais. Ça les intéresse même pas de les porter, en fait. Ce qui les intéresse, c'est, ah, oh, c'est beau, il me le faut. elles l'achètent sur Internet, le machin et tout, et finalement, ça remplit les placards, mais on s'en sert pas. Ce sont des femmes qui ont un vrai problème parce que, ouais, elles vident le compte en banque, le leur, et puis, entre autres, parfois, celui de leur conjoint. Et parfois, elles ont besoin d'aide, et elles cherchent de l'aide. Voilà, mais c'est un petit peu... Voilà. Alors, la bigorexie, ça, c'est le problème du sport. Et ne rigolons pas, il y a aussi beaucoup de problèmes d'addiction au sport. Parce que le sport donne une endorphine, hein, l'activité sportive. Moi, j'ai rencontré un gars comme ça qui était dans ma cure. Il me disait, vous savez, docteur, moi, quand je rentre du boulot, il faut que je fasse 20 km en courant. Sinon, je n'ai pas le droit de manger. Alors, d'abord, il était un peu plus mec que moi. Et puis voilà. Et alors, en plus, il était mal. Il avait des tendinites partout, etc. Là, en hiver, il pleut, il neige. Le mec, il faisait 20 km. Et sinon, il faisait 40 km de vélo s'il pouvait pas courir. Parce que sinon, il ne s'estimait pas avoir le droit de rentrer, de se mettre à table et de manger une soupe et un bout de pain. Parce qu'en plus, il avait un trouble du comportement alimentaire derrière. Et je discutais il n'y a pas longtemps avec un gars qui était membre de la fédération de running, donc sport de course et tout. Et il y a des gars pour qui c'est une vraie religion, hein, la course à pied. Hein. Et il disait qu'ils estiment que 12% de leurs licenciés sont des bigorexiques. Donc des gens pour qui un élément central de leur vie, c'est courir. C'est très important. On va passer à la suivante. Ouais, le workaholic. Mon directeur aimerait beaucoup que j'aie cette maladie-là. Mais je ne l'ai pas encore eu, celle-là. Mais voilà, il y a des gens qui deviennent parfois absolument addicts à leur boulot. Ils en parlent tout le temps, ils y sont tout le temps, ils viennent la dimanche, le truc. Leur famille leur dit, il faut que tu arrêtes, et ça n'arrive pas. Voilà. Et à un moment donné, généralement, ça se finit par un burn-out. Et là, c'est assez grave. Bon, on pourrait en discuter, c'est une longue histoire. Les troubles du comportement alimentaire, ça, c'est terrible. Hein. J'en ai un petit peu dans la cure où je suis. Donc, c'est surtout des filles, 10% de messieurs, 80% de femmes. Donc, elles sont très maigres et elles se voient au contraire très grosses. Elles ont une image faussée complètement de leur corps et elles se disent, c'est horrible, il faut... J'en avais une chez nous, il faut que je la raconte, c'est parce qu'elle est trop marrante, mais elle avait 40 kilos, elle faisait 1m78. D'accord ? Et alors, allez, en plus, c'est un problème d'alcool et de tabac et de cannabis. Alors, je lui dis, écoutez, madame, je vous garde, mais il faut que vous gardiez 40 kilos, ok ? Oui, docteur, je vous promets. Et alors, je lui dis, maintenant, je m'occupe pas de vous, mais dans une semaine, vous revenez me voir et vous avez pris un kilo. Oui, docteur, j'aurai 41 kilos. Ah, je suis content, j'étais très fier de moi. Et alors, je revois le moniteur qui s'occupe d'elle, qui dit, ouf, je sais pas si elle a beaucoup grossi. Hein. À chaque repas, elle mange une feuille de salade sans vinaigrette, elle la coupe en timbre-poste et en 30 minutes, elle a mangé la feuille. Je lui dis, ouais, c'est sûr, avec une feuille de salade à chaque repas, ça va pas le faire. Hein. Et alors, finalement, elle arrive dans mon bureau au bout d'une semaine, elle monte sur la balance, 41 kilos. Estomaqué. Je dis, quand vous êtes ? Comment c'est ? Alors, je regarde mieux. Alors, elle avait mis un pantalon en cuir. Donc, voilà, j'ai dit, bon, là, votre pantalon en cuir, c'était pas le même qu'avant. Donc, là, on va enlever 500 grammes. OK. Ensuite, elle avait mis tous les trousseaux de clés de toutes ses copines de la cure. Donc, on a enlevé tous les trousseaux de clés. Il y avait un kilo de clés. Et puis, ensuite, le temps qu'on discute, elle a dû aller aux toilettes parce qu'elle s'était chargée d'un litre et demi d'eau avant de monter sur la balance. En fait, elle était en dessous de 39. Voilà. C'est juste pour vous montrer l'importance que c'est pour eux de contrôler et la capacité impressionnante d'avoir d'être dans un autre démarche devant l'autre. Oui, mais ne vous inquiétez pas, je vais arranger tout ça, etc. Voilà, vrai problème. Voilà, ne pas ouvrir la porte à l'addiction. Et ce que je voudrais juste dire ici, c'est que l'addiction, qu'elle soit comportementale ou qu'elle soit liée à un produit, c'est un géant, comme il est parlé dans l'Ancien Testament. C'est un géant qui est devant votre porte. Mais tant que vous aurez la porte fermée, il ne peut pas rentrer. Tant que vous aurez la porte fermée, tant que vous serez capable de dire, moi, je ne veux pas ce truc-là. J'ai vu des tas de mains qui se sont levées pour dire, j'ai jamais fumé. Ne le faites pas. Ne le faites pas. La Fédération de cardiologie estime que 5 cigarettes peuvent suffire dans bon nombre de cas de déclencher une dépendance à vie à la cigarette. Pas chez tout le monde. Mais chez certaines personnes, 5 cigarettes peuvent suffire. Et c'est un géant qui est là. Et si vous ouvrez la porte, il met le pied dedans. Et là, ça va être très dur pour fermer la porte, parce qu'il est plus fort que vous. Et là, il faudra l'aide du Seigneur, sinon vous ne pourrez pas vous en sortir. Et une addiction, qu'elle soit comportementale ou produit, il vous faudra trouver de l'aide extérieure. Il faudra trouver, très souvent, d'abord, il faudra en parler, et il faudra vous trouver un coach. J'ai dit le mot coach, mais ça peut être quelqu'un qui vous comprend, quelqu'un qui va vous accompagner, à quelqu'un qui vous pourrait dire, ouais, j'ai craqué, j'ai fait ça, j'ai échoué là, j'ai besoin que tu m'aides. Il va falloir en parler de ce problème. Si vous le gardez pour vous, on va passer à la suivante. Où en es-tu ? Est-ce que tu dis que tu n'as aucun problème ? Est-ce que tu penses que tu pourrais peut-être faire quelque chose ? Est-ce que tu veux faire quelque chose ? Est-ce que tu es déjà rechuté ? Est-ce que tu penses que c'est foutu pour toi ? Ou est-ce que tu veux t'y remettre ? L'addiction est une maladie chronique à rechute. Ça, c'est ce que dit le monde. Hein. Ça, c'est ce que dit le monde. Vous savez, en matière d'alcool, on en guérit 17%. Ça veut dire que 83% vont vers la mort, hein, et la cirrhose, ou les cancers. C'est terrible, hein. Donc une maladie dont on guérit environ 17%, on guérit quand même beaucoup plus les cancéreux que les alcooliques aujourd'hui, si on y réfléchit en termes statistiques. Il est plus fréquent d'être guéri d'un cancer que de l'alcoolisme. Voilà. L'addiction, c'est le premier mensonge, et il est toujours d'actualité. Parce que qu'est-ce qu'il dit, le serpent ? Il dit, hey, tu veux être comme Dieu ? Tu veux connaître le bien et le mal. Et surtout, tu veux te suffire à toi-même. Tu veux expérimenter le plaisir. T'as pas besoin des autres. Non, mais c'est très fatigant, les autres. Il faut être gentil avec eux et tout, machin. Non, moi, on raccourcit tout ça. Tu viens chez moi, je vais te donner un machin. Ça va être une explosion de plaisir dans ton cerveau. Ça, tu vois, ça va être génial. Je te le présente, là. Voilà, c'est là. C'est, en plus, c'est pas cher. Et puis, tout le monde le fait. Mais ouais. Non, mais il y a des ringards, là. Faut pas les écouter. Moi, j'ai un truc, c'est exceptionnel. C'est ce que dit le diable. Et vous savez quoi ? Ça fait 6000 ans qu'il est là. Et le pire de tout, c'est qu'il trouve des petits gogos tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Il y a des millions de gens qui croient à ces mensonges, qui rentrent là-dedans et qui se font mettre les chaînes à vie. Tous les jours. Et parmi les chrétiens. Parmi les chrétiens. Tous les jours, le Satan, il gagne. Et il leur dit, j'ai le bonheur pour toi. Et en fait, c'est une arnaque. Alors aujourd'hui, dans notre monde, on ne sait plus où est la foi, parce qu'on l'a éliminée. Vous voyez, il y a une très belle image là, il y a un monsieur qui est un contrôleur de fonction de l'Union Européenne, qui vient voir Jésus, voilà, qui vient de naître, et puis il dit, le port du voile est interdit madame, l'auréole du petit n'est pas aux normes européennes, la paille n'est pas bio, aucune traçabilité pour le bœuf, et pour madame, c'est soupçon de grossesse pour autrui. Oui. C'est que finalement, cette image nous montre bien que nous avons chassé Dieu de notre société. Nous avons enlevé les valeurs de Dieu. Et c'est ce que disait l'orateur de hier soir qui disait, dans notre société européenne, on ne veut plus entendre parler de Dieu. Là où moi je travaille dans l'hôpital, on me dit, ah Daniel, il ne faut pas que tu parles de Dieu à tes patients, hein, c'est pas bien. Hein. On a chassé Dieu. On a chassé Dieu. Alors il ne faut pas s'étonner de ça. Il faut pas, on finit par avoir peur de la foi. Alors regardez, aujourd'hui, Paul a dit, j'ai bien peur qu'à ma prochaine visite dans une église de Genève, Dieu ne me réserve encore des expériences humiliantes chez vous. Je crains d'avoir à pleurer et à m'énerver sur plusieurs pécheurs endurcis, c'est-à-dire convaincus que ce qu'ils font n'est pas un problème, qui ne se seront pas détournés de leurs pratiques honteuses, de l'envie de jouir avant tout, avant tous et tout de suite, qui n'auront pas voulu arrêter de se vautrer dans la débauche et les dérèglements chimiques et sexuels desquels autrefois, c'est-à-dire avant de devenir chrétien, ils étaient dépendants. Ça a été écrit il y a 2000 ans, hein. J'ai juste un peu changé, hein. Mais à peine, hein. Mais franchement, Paul, il viendrait aujourd'hui à Genève. Il s'intéresserait un peu aux églises de Genève. Il pourrait le réécrire, ce texte, avec mes mots aujourd'hui. Il n'y a pas de raison, hein. La problématique était la même à Corinthe. Et il a dit, mais ouvrez les yeux. Wake up. Ouvrez les yeux. Vous ne pouvez pas dire, je suis Seigneur, je suis chrétien, je suis sauvé, j'ai plein de dépendances, mais ouais, c'est comme ça, c'est normal, il n'y a pas de problème. Excusez-moi, c'est nos casseroles, il faut que je les traite. Non. Seigneur Jésus a dit, moi, je veux couper ces casseroles. Je vais te libérer de ça pour que tu puisses devenir actif dans mon service. On va passer à la suivante. On a déjà vu celle-là, on peut passer. Voilà. Le regard sur soi-même est modifié. Ouais. Regardez dans Luc 21. Prenez donc garde à vous-même de peur que vos cœurs ne soient embrumés par la débauche, par l'ivrognerie avec son cortège d'addiction et par les besoins artificiels de cette vie et que ce jour-là, c'est-à-dire la mort, ne vous surprenne subitement. Très intéressant ce qu'il dit là. Et c'est dans Luc, hein. Il dit que quand tu prends le produit, quand tu es dans l'addiction, tu n'as plus un regard honnête sur toi-même. Tu ne peux plus regarder sur toi-même. Tu es obscurci par le produit. Mais non, mais tout va bien, mais c'est pas si grave. Mais en fait, tout le monde le fait. Ouais. Et c'est ce que dit la parole. Elle dit, quand tu es dedans, tu ne te vois plus. Hein, il dit, vous êtes embrumé. Embrumé. Alors, si autour de vous, un frère ou une sœur vous dit, il y a un problème, bouge. Ouvre les yeux. Est-ce que tu veux que je t'aide ? Ne refusez pas cette aide. Allez-y, dites, ok, je ne sais pas comment le Seigneur va faire, mais il a dit qu'il veut le faire. Alors, ok, Seigneur, viens maintenant. Viens m'aider. Ouvre-moi. Donne-moi un premier chemin. On va en parler. Allons-y, prochaine, si tu veux. Courage, fuyons. Ah oui, courage, fuyons. J'aime beaucoup ça. Regardez celle-là. Dans Marc 9, si ta main te fait tomber dans le péché et la dépendance, coupe-la, car mieux vaut entrer manchot, hein, dans la vie avec une seule main que d'aller avec les deux en enfer. Si ton pied te fait tomber dans le péché addictif, coupe-le. Car mieux vaut entrer dans la vie avec un membre de moins que d'être jeté avec tes deux pieds en enfer. Et si c'est ton œil qui te pousse au mal et qui risque de te causer la chute dans la dépendance de la cyberpornographie, alors arrache-le et jette-le au loin. Car mieux vaut pour toi entrer borne dans le royaume de Dieu que d'être jeté avec tes deux yeux dans l'enfer. Moi, j'ai eu besoin de faire très attention avec mon ordinateur. J'ai eu besoin de faire très attention avec mes recherches d'images sur Google. J'ai eu besoin de faire attention parce que j'ai compris que c'était une espèce de planche savonneuse pour moi. Et si je ne faisais pas attention en mettant l'ordinateur bien au milieu de la pièce, avec des règles précises, ça allait tôt ou tard m'arriver. Courage, fuyons. Si j'ai décidé d'arrêter la cigarette, je ne dois pas aller avec des tas de fumeurs, à des week-ends de fumeurs où tout le monde fume et tout le monde va m'en proposer. Fuyons. Si c'est votre problème-là, fuyez. Ayez le courage de dire « Je ne veux plus aller là-dedans parce que vous allez tomber. » Changez d'air. Mettez-vous au vert par rapport à là où vous étiez en difficulté. Coupez des situations à risque. Ça ne sert à rien d'augmenter le risque. Et c'est ce qu'il dit. Renoncez à des libertés. Oui, vous pourriez dire « Je veux garder mes deux bras, mes deux jambes et je veux pouvoir avoir mon ordinateur tout le temps. » Oui, vous pourriez le dire. Mais il vaut mieux en renoncer d'un petit bout et de gagner la liberté en Christ que de garder cette liberté qui vous amènera à la chute. Notre responsabilité, c'est de fuir l'asservissement. Et le péché, parce qu'il y a une notion de péché là-dedans, c'est d'avoir lâché cette liberté. Dieu nous a fait libres, et nous avons lâché cette liberté. Nous l'avons vendue au diable pour un peu de plaisir. Nous l'avons vendue au diable pour un peu de plaisir. Et je vais vous dire, le début de la guérison de l'addiction, c'est d'être capable de dire « Ok, j'ai fait ça. J'ai vendu, pour un peu de plaisir, ma liberté que m'avait donnée pourtant Jésus. Et je lui ai vendue. Et bien maintenant, je vais la récupérer par la force du Seigneur Jésus. Je commence par reconnaître que c'est vrai, j'ai fait ça. Je l'ai fait, je l'ai raté. Mais Seigneur, s'il te plaît, viens-moi en aide. Pardonne-moi et viens-moi en aide. » Et je dirais que le premier, on peut passer. Et si Jésus venait à Genève aujourd'hui, j'aime bien cette histoire aussi, c'est que quand on regarde qui c'est que Jésus fréquentait, il fréquentait pas les maîtres de la loi, il fréquentait pas les super types bien sapés avec des belles robes, les grands pasteurs, les prêcheurs, les docteurs, les grands politiciens bien jolis, propres sur eux, vous voyez. Encore qu'aujourd'hui, les politiciens propres sur eux, il faut les chercher, surtout en ce moment. Enfin bref, en tout cas, on voit que Jésus a fui ces gens-là. Et quand on voit la troupe de disciples qui suivaient Jésus par derrière, eh ben, il y avait tous les pharisiens qui disaient « Oh là 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 là, c'était un ramassis de clodo !» Un ramassis de collabos, on a dit ce matin, de paumés, de... Moi, je vais vous dire, si Jésus venait aujourd'hui, il irait aux hospices universitaires de Genève, il ferait sortir tout le service d'addictologie. Et il dirait, venez avec moi, vous qui êtes fatigués, chargés, attachés par les chaînes de l'ennemi. Moi, j'ai une guérison pour vous. Moi, j'ai une guérison pour vous. Et il aurait certainement une chaîne de gens pas très respectables qui passeraient ici à Colonie. Ouais, je les vois très bien là. Et tous les gens de Colonie, c'est un quartier un peu chicos là, ils diraient « Oh, quelle horreur ce Jésus, mais il fréquente qui ?» Moi, je lui donne pas 15 jours Jésus à Colonie pour être crucifié une nouvelle fois. Parce que, dis donc, c'est intolérable. Un type qui commence à dire que les pasteurs ici, les politiciens sont véreux et tout ça, et qui se balade avec toute une flopée de types bizarroïdes. Non, non, attendez, pas tolérable à Colonie. Je lui donne pas 15 jours à Jésus. Voilà. Manfred Engeli, un Suisse, en même temps Suisse quand même, hein, il a écrit un super bouquin qui s'appelle Makarios, le chemin en route vers le bonheur. Faire soi-même son malheur est un art que les humains maîtrisent depuis longtemps sans avoir besoin de l'apprendre, malheureusement. De plus, ils le transmettent de génération en génération. Et ça, je le vois tous les jours. Les gars dans mon hôpital qui disent « Mon père était là-dedans, mon grand-père était là-dedans. Et vous savez quoi, mon fils, il fume du cannabis. Et ça ne se passe pas bien. » La malédiction, et ça c'est dit dans la parole, la malédiction qui suit les générations. Coupez ces choses au nom du Seigneur Jésus. Coupez-les, demandez de l'aide, qu'on prie pour vous. Si vous avez des choses comme ça dans votre famille, qu'on vous aide pour prier, pour couper ces choses. Et ensuite il dit, mais Dieu au contraire mène le combat contre les racines du malheur. Il veut nous enseigner l'art d'être heureux et libre au travers d'une relation entre l'homme et son créateur. C'est ce que je voudrais que vous puissiez tous savoir, et on va encore en parler très courtement. Le traitement spirituel des addictions. En effet, la tristesse conforme au plan de Dieu, si elle est portée comme Dieu le désire, ça produit la repentance. La repentance est la clé de la guérison. C'est dire, ok, j'ai raté mon coup. Tant que vous direz, oui, mais je suis dans le hors, mais ce n'est pas de ma faute, c'est ma grand-mère, c'est mon machin, c'est l'école, le prof de maths, c'est je ne sais pas qui. Mais le jour où vous direz, c'est moi, j'ai raté, Je suis devenu dépendant. Je veux m'en sortir. J'ai besoin d'aide. Pardon, Père, pardon, parce que j'ai perdu cette liberté et je l'ai vendue pour du plaisir. Seigneur, redonne-moi ma liberté. Fais ton chemin de guérison en moi. Alors là, le Seigneur va pouvoir commencer à faire quelque chose pour vous. Très souvent, l'image du père et de la mère est très mauvaise. Très souvent, les patients addicts ont des parents totalement dysfonctionnels. Totalement dysfonctionnels, en tout cas des grosses casseroles. Et une des premières choses à faire, c'est de dire, regarde le père parfait, qui est à la fois une mère et un père pour nous, qui nous a aimés, qui nous pardonne, qui a un amour inconditionnel pour nous. Et je dirais que quand on parle de ça, et je dirais, si vous avez besoin qu'on en parle, moi je serai disponible à l'espace à vos marques. Première chose, c'est de comprendre que le Père, il ne vous juge pas. Quel que soit votre passé, il vous aime comme vous êtes et il a envie de vous libérer. Il vous accepte comme vous êtes, il n'y aura aucun jugement. Il veut vous en sortir. Et différent du Père, quand on l'a vu dans le théâtre de ce matin, le Père, ouais, je le savais, tu as encore tout raté, etc. On va passer, ça c'est les 10 actions des alcooliques anonymes qui ont pris une partie du spirituel. Regardez, la repentance. Reconnaître qu'on a raté, s'humilier, abandonner ses excuses, rechercher devant Dieu, voir l'horreur de son péché. Ça, c'est important. Si vous n'avez pas encore compris que la pornographie sur Internet, c'est une horreur devant Dieu, qu'elle modifie votre regard sur les hommes et sur les femmes, qu'elle impactera, par exemple, votre relation avec votre futur conjoint, tant que vous direz, non, mais attends, c'est pas si grave, parce que finalement, c'est quand même un peu bon tout ça, là. Puis de temps en temps, je suis stressé. Oui, alors, ça va pas aller. Mais le jour où vous aurez dit, c'est une saleté, je ne la veux plus, Seigneur, aide-moi, je déteste ça. Alors là, vous pourrez vous humilier et ensuite vous pourrez agir. Et là, il faudra que vous trouviez un partenaire en redevabilité. Luc 4, verset 19, Jésus dit, le Père m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé par les produits, pour proclamer aux prisonniers des dépendances la délivrance et aux aveugles spirituels le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les addictés et pour proclamer une année de grâce et de pardon du Seigneur pour tous, même pour les SDF de Genève et les environs, les junkies, les alcooliques qui fréquentent les hôpitaux. Jean 8, verset 32, et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Moi, je vois des centaines de chrétiens qui étaient accros et qui étaient dans le fond du trou de l'addiction, qui ont été libérés par le Seigneur. Moi, dans mon métier, je suis extrêmement frustré parce que je vois des gens qui auraient tellement besoin qu'on leur annonce l'Évangile, qu'on leur parle d'abord de Jésus, le libérateur, du Père qui aime, et on n'a pas le droit. Et ils plongent, et 2 ans plus tard, ils reviennent pour une nouvelle cure, et encore une nouvelle cure. Puis finalement, on reçoit un petit papier entouré de noir, « Monsieur, un tel est mort, vous pouvez venir à son enterrement. » Ne faites pas ce chemin-là. Seigneur, il a un plan pour vous. Les freins au changement, typiques, quand vous avez envie de dire aux autres, ça c'est dans les églises, moi j'ai envie de te corriger. Ah, il faut que tu arrêtes de fumer. Et automatiquement, vous avez un réflexe de résistance. Eh ben si, mais moi je fumerai quand même. Typique. Dans les églises, si vous faites du counseling, ne rentrez pas dans ça. Ne donnez pas des leçons aux autres. Ne leur dites pas qu'il faut arrêter, tu devrais, c'est très mauvais, la cigarette ça donne le cancer. Ne leur dites pas ça. Dites-leur que le Seigneur les aime et qu'il veut les libérer. Que le plan de libération, il est là aujourd'hui. Et que vous êtes avec eux, assis avec eux, et que vous êtes prêts à prier pour eux. Ça, ils vont pouvoir l'entendre. Le plan, amour, parce qu'ils ont besoin de tellement d'amour, les addictés. Pardon, parce qu'ils ont fait tellement de bêtises et on leur a fait tellement de mal. Et ensuite, prière. La prière se situe au niveau de la bataille spirituelle. Je peux vous dire une chose, quand Satan a pris un pouvoir sur vous, il ne le lâche pas facilement. Il va falloir lutter spirituellement. C'est ce que dit l'apôtre Paul. Il dit, nous n'avons pas à lutter contre des puissances terrestres avec des armes humaines, des kalachnikovs. Non, 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 non. Il a dit, nous avons à lutter spirituellement. Et cette bagarre n'est peut-être pas faite en 5 minutes. Ça veut dire qu'il faut s'asseoir, parfois se mettre à genoux, avoir un frère, des sœurs et dire, voilà, aujourd'hui je t'apporte François, je t'apporte Juliette, je te prie pour elle, elle a plongé là-dedans, elle a ça, etc. Et un combat spirituel qui dure parfois des jours et des jours. Mais au bout est la victoire, parce que le Seigneur Jésus, il a libéré tout. Il a tout porté à la croix une seule fois pour toutes. Et il a accompli la guérison. Il a annoncé, il est descendu aux enfers pour annoncer au diable qu'il avait perdu le pouvoir. Et je crois que c'est fini. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Je ne me laisserai pas addicter par rien, a dit la Bible, et que Dieu vous bénisse.